Bonjour, bonjour à tous. Mardi 9 octobre 2018, il est 9h, bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et j'ai pour m'accompagner l'équipe au grand complet cette semaine avec Jean-Charles Algan.
Bonjour, bonjour.
Et Yves-Olivier également.
Bon matin.
Autour de la table, on est là, on est bien là avec vous pour l'heure qui vient.
Complètement là.
Complètement là, avec plein de sujets. Je vois Jean-Charles qui les feuillette, il y en a partout.
Je commencerai aujourd'hui peut-être avec l'interdiction du voile intégral qui embarrasse Zell am See. C'est une station de tourisme autrichienne, voilà, et puis qui est très prisée par les Saoudiens. Et puis je vais passer aussi en revue les dernières granges rondes qui existent dans les cantons de l'Est.
Très bien.
Et puis peut-être d'autres.
Peut-être des brèves si nous avons le temps. Et puis ensuite il y aura la deuxième partie de l'émission.
Oui.
Je ne m'en fais pas. Yves Olivier, de votre côté.
Alors, je parlerai de cheminée et de la nouvelle réglementation. Mm-hmm. Et également des 5 étapes clés pour se lancer en affaires et de Huawei. Je laisserai savoir c'est quoi un peu plus en détail. Huawei.
Oui, je suis curieux d'apprendre.
Eh bien moi, mon premier sujet, il y a un lien phonétique si l'on veut. Je vous parlerai du Waferindum. Voilà, c'est une émission tout en similitude du point de vue de la prononciation. Et également, nous verrons l'histoire du Mamba évadé qui sème la terreur à Prague. Si vous ne savez pas ce qu'est un Mamba, bien on le verra également dans quelques instants.
Que de découvertes.
Que de découvertes ce matin. On va en apprendre des choses. C'est parti pour les voies de service.
L'interdiction du voile intégral embarrasse Zell am See. Avec son lac cristallin sur fond de cimes enneigées, Zell am See est devenue une destination vedette des touristes arabes en Europe. La station autrichienne espère bien le rester en appliquant avec tact, entre guillemets, une loi sur l'interdiction du voile intégral en vigueur depuis un an. Des serveurs en culottes de cuir traditionnelles côtoyant les silhouettes de visiteuses habillées d'un voile sombre, l'image n'étonne plus personne sur les rives verdoyantes de cette petite cité située au bord de Salzbourg. Depuis plus d'une décennie, le décor idyllique du lac où plongent les montagnes aimantes des dizaines de milliers de touristes venant d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou d'Oman, qui compte désormais pour plus du quart des étrangers visitant cette localité de 10 000 habitants. Les brochures locales, toutes disponibles en langue arabe, y compris celles proposant une initiation au chant tyrolien, leur proposent un paradis de nature et de fraîcheur. Mais un frisson d'inquiétude agite les eaux du lac de Zell. Depuis qu'est entrée en vigueur, en octobre 2017, une loi autrichienne interdisant le port du voile islamique intégral, burqa ou niqab, dans les lieux publics, sous peine d'une amende allant jusqu'à 150 euros, 223 dollars. J'ai entendu quelques personnes dire que désormais elle ne reviendrait plus, affirme sous couvert d'anonymat, un employé de restaurant de Zell am See au terme du premier été d'application de la mesure. Comment imposer la loi sans réduire la manne touristique? Nous essayons de faire preuve d'autant de tact et de sens de la mesure que possible, assure à l'agence France Presse Kurt Mosch, le chef de la police locale. Les représentations diplomatiques autrichiennes dans les pays arabes ont été chargées de passer le message. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a été reçu à Zell. Initiée par la coalition centriste au pouvoir jusqu'à fin 2017 et confirmée par la coalition droite-extrême droite qui lui a succédé, la loi ciblait au premier chef les musulmans d'Autriche dans un contexte vif débat sur l'immigration et de crainte concernant l'islam radical. Mais la mesure, appliquée sans difficulté particulière à l'échelle nationale, a frappé les touristes en visite au bord du lac de Zell, où plus de 200 amendes ont été infligées entre juin et septembre. La plupart des professionnels du tourisme interrogés assurent que l'harmonie règne, mais Barbara Scheicher, qui loue des petits bateaux de promenade, fait entendre une note un peu dissonante. « J'ai demandé à une vacancière si elle savait que le niqab était illégal et elle a si mal réagi que depuis, je n'ai pas recommencé. Elle affirme avoir observé le même type de réaction lorsque la police effectue un rappel à la loi. Peu importe que ce soit moi qui fasse la réflexion ou la police, il paie l'amende et voilà, affirme Madame Scheicher. Parfois, la discussion peut prendre un peu de temps, reconnaît le commandant de police, mais dans 90% des cas, les touristes retirent le voile, leur couvrant le visage, assure-t-il. Parmi les flâneurs d'une journée de septembre le long du lac, une poignée de femmes intégralement voilées étaient visibles mais minoritaires dans les flots des visiteurs, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. Oui, la police nous a parlé sur la loi sur le niqab, confirme un vacancier saoudien déambulant avec sa femme dont le visage est dissimulé. Mais nous partons demain, ajoute-t-il en guise de justification. La police doit concilier les préoccupations du secteur touristique avec les attentes, voire le zèle de certains visiteurs. Un Norvégien de passage a ainsi transmis aux autorités différents clichés d'une femme portant le niqab, renseignant les lieux, heures de prise de vue et intimant aux forces de l'ordre « Faites votre travail ». La police applique la loi de façon trop dure, affirme au contraire l'employé de restaurant. À force de pédagogie, le commandant Moschl veut croire que la nouvelle législation entrera dans les mœurs. Je pense que dans quelques années, tout ça ne sera plus un problème. La plupart des visiteurs arabes ne se distinguent déjà plus des autres. Ils sont habillés à l'occidental, note le maire de Zell am See, Peter Paroudek, dans le quotidien Courier. Non, sans reconnaître un léger recul du nombre de touristes saoudiens. Voilà, c'était donc l'interdiction du voile intégral en Bahr Hazel am See, mais il continue de vivre.
Le waférendum, qu'est-ce que cela vous évoque comme ça, rapidement ?
Référendum en créole ?
Référendum en créole, d'accord. Une première piste à ma gauche.
Je dirais un référendum de chien,
oui,
les wawa.
Oui. Un référendum de chien, effectivement.
Ah oui ?
Oui. Bonne réponse, c'est un point à ma droite. Et qui dit référendum, dit également Royaume-Uni, parce que c'est d'actualité là-bas. Un waférendum s'est déroulé dimanche avant-hier à Londres devant le Parlement où quelques milliers de chiens et leurs maîtres ont manifesté leur opposition à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne pour réclamer un second référendum. Eh oui.
Les chiens veulent rester dans l'Europe, c'est ça ?
Ben vous allez voir, c'est très sérieux, c'est très sérieux. On pourrait croire que c'est seulement insolite, mais attendez un peu.
J'ai hâte.
Nous voulons créer le plus grand aboiement du monde, a expliqué dans un communiqué l'auteur de l'initiative, Daniel Elkann, capitalisant sur l'amour immodéré des Britanniques pour leurs animaux domestiques, afin de tenter de bloquer le Brexit. Avec ce mouvement, par les chiens pour les humains, il espère rassembler 4 à 5 000 chiens qui défileront dans le centre de la capitale pour rallier le Parlement et remettre à Downing Street, les bureaux de la première ministre conservatrice Theresa May, une pétition sur laquelle les signataires réclament un nouveau référendum sur le Brexit. Les pétitionnaires ont mis sur YouTube une vidéo « The Wafferendum is coming », le Wafferendum arrive, figurant divers chiens qui expriment leur point de vue sur la question à l'aide de pancartes. Nous savons que le Brexit sera désastreux pour les humains, mais il pourrait s'avérer tout aussi nocif pour nos animaux de compagnie, affirme Dominique Dyer, un des organisateurs du Wafferendum. Pénurie de vétérinaires, hausse du prix des soins et des aliments ou fin du passeport européen pour les animaux, il va jusqu'à brosser le noir scénario d'une récession obligeant par manque de moyens les propriétaires à abandonner leurs animaux à des refuges débordés. Pour rappel, le Brexit a été voté par 52% des Britanniques en juin 2016 et doit entrer en vigueur le 29 mars prochain. Ses détracteurs demandent l'organisation d'un second référendum sur le résultat des négociations avec l'Union européenne encore inachevée, dans l'espoir de renverser la décision. Et même les chiens s'y mettent désormais pour contrecarrer tous ces projets.
En me rasant, je me suis dit, tiens, quelque chose. je ne reculerai devant rien pour moi. Je n'irai tout regard mutin du tac au tac. Post-vérité, c'est mon segment. Prémisse d'un printemps citoyen. Si je te dis qu'il est encore temps, c'est qu'il y a moyen. Votez-vous pour moi, j'imposerai à qui veut l'entendre. 49-3, en fait, il n'y a rien à comprendre. Je restaurerai souveraine les seules valeurs qui tiennent, les miennes pour moi.
Votez pour moi, par Tété.
Merci. Cher Louis, à mon tour de faire une transition. Hein, donc, quittons les referendums en Europe et envolons-nous au pays de Huawei, en Chine.
Tu le chômes des Chines.
Où Ren Xingfei, fondateur du mastodonte chinois des télécoms Huawei, compare son groupe à un loup acharné ne lâchant jamais sa proie. Quasi banni des États-Unis, Huawei vient de détrôner Apple comme numéro 2 mondial des téléphones intelligents et défie ouvertement le leader planétaire Samsung. Depuis 2010, le Californien Apple et le Sud-Coréen Samsung se disputent âprement les deux premières marches du podium des meilleurs vendeurs de téléphones intelligents à l'échelle du globe. Mais le duopole s'est vu bousculer au deuxième trimestre par Huawei. Le Chinois a écoulé 54,2 millions de téléphones, 15% du marché mondial, selon le cabinet IDC, devançant les 41,3 millions d'iPhones vendus par Apple. Samsung reste largement en tête avec 71,5 millions d'unités. Quasiment privé d'accès au crucial marché américain, Huawei propose des téléphones intelligents premium en Europe, tout en adaptant sa gamme au marché en développement. Il y a une amélioration grandissante de l'image et de la reconnaissance de la marque Huawei. Il se différencie et positionne ses produits surtout sur le spectre des gammes et prix, observe Tarun Patak, expert du cabinet Counterpoint. Ex-ingénieur de l'armée chinoise, M. Ren, 73 ans aujourd'hui, a fondé Huawei en 1987 avec quelques milliers de dollars, se concentrant sur les technologies de réseau télécom jusqu'à en faire un leader mondial des équipementiers, pionnier reconnu de la 5G. L'entreprise s'est dotée d'une branche de téléphones mobiles en 2003 avec un succès fulgurant, d'abord en Chine, puis ailleurs en Asie. Afin d'afficher ses ambitions en Europe, où il s'arroge environ 10% du marché, compte 25% à 35% pour Apple et Samsung. Après des présentations à Londres et à Barcelone, le groupe chinois a lancé en mars à Paris son nouveau modèle P20. Son atout, des téléphones intelligents à grand écran équipés d'une mémoire d'une capacité inédite et d'un puissant capteur photo jusqu'à 40 mégapixels développé avec l'allemand Leica pour un prix de lancement de 650 à 900 euros. Jusque-là, Louis...
Je confirme.
Oui, parce que oui, vous êtes nouvellement
propriétaire. Pour la petite histoire, c'est ça. J'en ai acheté un avant-hier.
Parfait. Donc, Huawei connaît en revanche un échec cuisant en aux États-Unis, pardon, où le passé militaire de son fondateur avive les suspicions d'espionnage. Le groupe s'est vu bannir de projets d'infrastructures américains pour des réseaux invoqués de sécurité nationale. En début d'année, Huawei a également vu les opérateurs américains AT&T et Verizon, puis le distributeur électronique Best Buy, renoncer à proposer ses téléphones intelligents sur fond de vive pression du Congrès. Le groupe de Shenzhen nie farouchement tout lien avec le régime de Pékin. Dans ce contexte, l'importance du dépassement d'Apple par Huawei ne peut être sous-estimée, insiste Ben Stanton, expert du cabinet Canalys. L'exclusion des États-Unis l'a obligé à travailler plus dur encore en Asie et en Europe. Avec des stratégies différenciées, en Indonésie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Huawei propose désormais des modèles technologiquement sophistiqués, mais à des prix nettement plus abordables. Avec l'idée que quand les consommateurs de ces marchés monteront en gamme, ils resteront dans l'écosystème Huawei. Fort de ces stratégies, Huawei devrait surpasser en 2018 son objectif de 200 millions de téléphones vendus, seuil annuel que seul Samsung avait atteint jusqu'alors. Et il est fort possible que nous soyons numéro 1 au quatrième trimestre 2019 devant Samsung, a martelé vendredi Richard Yu, patron de la branche produits de consommation du groupe. Huawei produit lui-même ses composants clés, ce qui le préserve du sort de ZTE, l'autre géant chinois des télécoms, dépendant de composants américains et victime de restrictions par l'administration Trump. Mais à long terme, l'absence des États-Unis pourrait plomber Huawei. Des experts estiment d'ailleurs que le lancement prochain par Apple de nouveaux modèles devrait permettre au groupe à la pomme de retrouver son deuxième rang. Dépasser Samsung s'annonce compliqué. Plus vous montez en gamme, plus les fonctionnalités, l'innovation, les attentes des clients augmentent drastiquement, prévient Tarun Patak. Conscient du défi, Huawei a gonflé de 17% l'an dernier ses dépenses en recherche et développement à 11,6 milliards d'euros, soit 15% de ses revenus, approchant le montant des dépenses recherche et développement des Américains Amazon et Alphabet, maison mère de Google. Les performances des capteurs photo et le test crucial des téléphones 5G à venir scelleront son sort face à Apple et Samsung, lisse M. Patak. Reste aussi à résister à l'essoufflement d'un marché mondial saturé, ainsi qu'à une concurrence exacerbée en Chine. Son principal marché, où l'affronte ses rivaux locaux, Xiaomi, et les nouveaux venus Oppo et Vivo.
Et pour répondre à la question que je lisais dans le regard de Jean-Charles, j'étais ces derniers jours à Paris, ce qui fait que j'ai pu acheter ce téléphone et je suis peut-être, à mon insu, un espion à la solde de la Chine maintenant, apparemment.
À la recherche des dernières granges rondes. On les comptait par dizaines il y a 100 ans. On en compte moins de 10 aujourd'hui. Trésors d'architecture unique des cantons de l'Est, les granges rondes sont presque aussi difficiles à dénicher en 2018 qu'une aiguille dans une botte de foin. Mais elles méritent d'être admirées. Voici une virée dans les couleurs d'automne à saveur historique. On peut mêler les deux, l'immobilier et le tourisme. Rares et fragiles, celle-ci s'est effondrée, celle-ci aussi, Stanley Holmes soupire. Il tient dans ses mains une mosaïque de photos des dernières granges rondes répertoriées au Québec, réalisées en 2009. Il y en avait alors 9. Depuis, 2 d'entre elles ont disparu, démolies ou effondrées, emportant avec elles une parcelle de l'histoire des cantons de l'Est. Il ne reste donc que 7 fermes rondes dans les cantons de l'Est, dont 5 seulement sont accessibles au grand public. Stanley Holmes est l'un de ses propriétaires singuliers et sûrement le plus fier du lot. Sa grange, c'est son grand-père qui l'a construite en 1907 avec l'aide d'un charpentier de Way Mills, Willis Cramer. Stanley Holmes est né à l'ombre de la grange ronde. Il y a joué des heures et des heures, gravé ses initiales sur une planche de bois près de l'entrée, comme l'avaient fait son père et son grand-père auparavant, comme le feront ses fils et ses filles après. Sa forme n'a rien de mystérieux pour lui, rien d'étonnant. Quand j'étais petit, il y en avait au moins 15, mais je dirais plutôt 15 dans le voisinage. On appelait notre coin le coin des granges rondes, tellement il y en avait. À la Société d'histoire de Sherbrooke, on estime qu'il y en aurait déjà eu près d'une centaine dans les environs. Rarissime au Québec et au Canada, les premières granges rondes ont été construites au début du XXe siècle dans un secteur restreint des cantons de l'Est, limitrophe du Vermont, où elles avaient pris racine deux décennies plus tôt. On raconte souvent, même au bureau d'information touristique de Coaticook, qu'elles ont été conçues ainsi pour empêcher le diable de se cacher dans un coin. C'est faux, dit Michel Arnois, président de la Société d'histoire de Sherbrooke. Ce sont des considérations utilitaires qui ont motivé leur construction. Alors donc, on peut voir les couleurs d'automne et les granges rondes, une idée comme une autre. Donc, sur la route des granges rondes, on peut découvrir donc les dernières. Voici un petit circuit vite fait pour admirer en même temps que les couleurs. La grange de Stanley Holmes, donc à Barnstone West. Celle du bureau d'accueil de Coaticook qui est à Coaticook, Baldwin Mills à Coaticook, Mansonville à Mansonville, Stanbridge et au lac Brome, il y en a qu'on peut voir. Et donc, si on veut suivre les couleurs d'automne à la trace sans obligatoirement aller dans les cantons de l'Est, maintenant, les couleurs d'automne sont sans conteste l'un des plus beaux spectacles naturels offerts par le Québec. Sachez qu'il est possible, avant de se déplacer, de vérifier où on en est rendu, où est rendu le flamboiement des feuilles région par région. C'est Québec Original, le site touristique gouvernemental officiel, qui met à jour chaque semaine une carte interactive indiquant l'avancement du changement de couleur qui passe par 7 stades de non débuté à terminé. Ce sont les associations touristiques régionales qui scrutent l'évolution colorée afin de transmettre les données et permettre l'actualisation de la carte. Les balises sont nombreuses dans les régions centrales de la province, autour de Montréal et de Québec, mais un peu plus clairsemées en Abitibi et en Gaspésie et absentes pour la côte nord. En Ontario, si vous avez planifié un séjour en Ontario, eh bien, le même type de carte interactive existe pour cette province mise à jour par l'organisme Parc Ontario. Les balises y sont particulièrement touffues dans la zone sud-ouest, autour de Kingston et de Toronto, ce qui ne sera pas pour déplaire aux Québécois voisins. En prime, on indique site par site le pourcentage des feuilles tombées. Voilà, c'était. On peut voir des belles choses comme des granges rondes et des belles couleurs en même temps.
Est-ce qu'on parle encore de pacte ? On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos ombres, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole.
Ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après. Crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux. Mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses full of moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need.
Cœur de pirate accompagné de Loud nous chantait dans la nuit.
Et après les belles couleurs de l'automne, Eh bien, parlons un peu de vers, et attention, ça fait froid dans le dos, parce que je vous parle d'un mamba vers. Savez-vous ce que c'est déjà ?
Pour
un mamba,
la
non.
La danse, mais
non,
mambo.
Non, eh bien, pour les fans peut-être de Kill Bill, le film de Tarantino, ça vous rappellera quelque chose, même s'il était noir dans le film. C'est un serpent très venimeux et agressif, faut-il préciser, long de 2 mètres et qui s'est échappé mardi après avoir mordu sa propriétaire, ça se passe à Prague, et qui sème depuis la terreur dans cette banlieue où la chasse aux reptiles a aussitôt été lancée, mais sans succès pour l'instant depuis vendredi. La propriétaire de 30 ans, qui ne possède pas le certificat nécessaire pour élever des serpents venimeux, a tout de même été placée en coma artificiel dans un état grave. Les 5 autres occupants de la maison ont été évacués rapidement par la police. Le quartier de Lubosepi, dans le sud de la capitale tchèque, vit depuis dans l'incertitude. Une école maternelle située à proximité ne permet plus aux enfants de jouer en plein air. L'affaire fait le bonheur de la presse populaire et des blagueurs sur Internet. Ces derniers proposent la candidature du Mamba Vert aux élections municipales qui commencent vendredi, sous les couleurs du Parti des Verts, bien évidemment. Ils ont aussi inventé un nouveau nom pour le quartier voisin de Barandov, Mambarandov. Mobilisés pour retrouver le fugitif, les experts en herpétologie tentent de calmer les esprits en affirmant que le reptile thermophile est déjà très probablement mort, en raison des températures peu élevées actuellement à Prague. Ils ne peuvent cependant pas dire avec certitude si le serpent se trouve entre les murs de la maison ou non. Les pièges posés à l'intérieur de l'immeuble restaient vides vendredi. Malgré les efforts et toutes les mesures prises, le serpent dangereux n'a pas encore été capturé. En même temps, les chasseurs ont annoncé un changement de tactique. Ils ont quitté l'immeuble jusqu'à samedi pour encourager le reptile à sortir de sa cache, ce qui, espèrent-ils, leur permettra finalement de le capturer. Passons à la pause, je crois. Il reste une poignée de secondes à peine. Courte pause, nous revenons juste après pour encore plus d'articles et de nouvelles. A tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie, la deuxième mi-temps de cette émission. Quels vont être les thèmes que nous allons couvrir ?
Alors, je vais vous parler de cheminée ou de, comme on dit si bien au Québec, poêle à bois. Mm-hmm. Poêle.
Ah oui, c'est pas pareil, un poêle et une cheminée et un foyer.
Ok, excusez. Et je vous parlerai également des 5 étapes clés pour se lancer en affaires. Si jamais on a un peu de temps, je vous parlerai de Rihanna.
On trouvera le temps,
après,
certainement.
C'est vous qui voyez.
Justement, on parlera de Rihanna parce que je n'ai rien à dire. Salon international du tourisme voyage, je vous en parlais un petit peu. Il arrive à grands pas, c'est la fin de semaine prochaine, en fin de semaine. Et puis, du petit nouveau sous le soleil, des nouvelles de stations dans le sud.
Très bien. De mon côté, je vous parlerai de la terreur des trottinettes urbaines. On n'a pas ça à Montréal et pas sûr qu'on les ait dans les mois qui viennent, mais en Europe, ça fait grand
ça
bruit
fait longtemps, oui.
Et ça fait des problèmes. Ah. Et également, si vous avez une cour avec un gros caillou dans votre cour, eh bien, c'est peut-être une météorite à 100 000 dollars. C'est arrivé à un Américain, en tout cas. C'est tout de suite dans les voies de service.
Vos vieux poêles à bois à la retraite. Et voilà, ceux qui brûlent d'envie de faire fonctionner leur foyer ou poêle à bois l'hiver prochain devront y penser à 2 fois avant de faire feu de tout bois pour se chauffer. Waouh, ça c'est de la poésie. C'est signé Sylvain Sarrazin de La Presse. Annoncée depuis longtemps, la nouvelle réglementation qui resserre de façon draconienne leur utilisation à Montréal est entrée en vigueur lundi. Cette disposition vise à réduire la pollution et la formation de smog hivernal dans la mesure où les poêles à bois émettent une quantité importante de particules fines, ce qui a un impact non négligeable sur la santé des citadins. En soi, le nouveau règlement s'avère plutôt simple. L'utilisation d'appareils à combustible solide, bois, granules ou bûches écologiques, est interdite dans tous les arrondissements montréalais, à moins qu'il n'ait obtenu une certification d'émission limitée de particules fines, fixée à 2,5 g/heure. On va essayer de savoir ce que ça veut dire. Cette certification doit être donnée soit par l'EPA, Environmental Protection Agency, soit par Polytest, norme CSA/B415.1-10. Attention, car certains foyers sont homologués EPA, mais dépassent la limite de 2,5 g par heure et ne seront pas jugés conformes, précise Mélanie Gagné, relationniste pour la ville de Montréal. Il s'agira donc d'un critère crucial à considérer lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil de chauffage de ce type. Notez que les foyers et poêles fonctionnant au gaz ou à l'électricité ne sont pas touchés par l'interdiction. Rappelons qu'il est obligatoire de déclarer poêles et foyers à combustible solide auprès de la ville, une démarche qui peut être réalisée en ligne. Ceux qui brûlent d'amour pour leurs vieux poêles désuets auront tout intérêt à se résigner, puisqu'à partir du 1er octobre, les particuliers contrevenant au nouveau règlement s'exposent à des amendes allant de 100 à 500 $ pour une première infraction. Afin de s'assurer de l'application du règlement, la ville de Montréal mettra en place plusieurs mesures, notamment la présence d'inspecteurs sur le terrain, entre autres, en période d'avertissement de smog, et le traitement de toutes les plaintes qui lui seront adressées par les citoyens à ce sujet, souligne Madame Gagné. En revanche, n'importe quel foyer, même non homologué, peut être utilisé si une panne d'électricité de plus de 3 heures survient. Enfin, même si les caractéristiques de votre appareil répondent à la nouvelle certification exigée, il sera interdit de l'utiliser pendant les épisodes de smog pour lesquels les alertes auront été lancées par la ville. C'est tout. Petite question pour vous, avez-vous une cheminée ?
Non.
Oui.
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 Et c'est bon, c'est certifié.
Moi, je suis à la campagne, donc oui.
Ah, d'accord.
Oui. Parfait. Je pense. J'ai un poêle à combustion.
Okay, très bien. Ah oui, carrément. Okay.
Dans le foyer. Ah, comme ça, je suis tranquille.
Chanceux.
Salon international, tourisme voyage les 19, 20 et 21 octobre à la place Bonaventure. Ben, c'est pas en fin de semaine, c'est la semaine, fin de semaine prochaine. Le voyage célébré en grand. Les passionnés de voyage convergeront en grand nombre vers la place Bonaventure les 19, 20 et 21 octobre prochains pour la 30e édition du Salon international tourisme voyage présenté par Aéroports de Montréal. Plus pertinente que jamais. Cette édition présentera une quantité encore plus impressionnante d'exposants et de destinations, occupant plus d'espace que les dernières années. Des milliers de destinations vedettes et une centaine de pays y seront représentés, incluant des nouveaux venus ou de grands retours tels la République tchèque, le Honduras, le Portugal et la Guadeloupe. Polynésie française à l'honneur. Une quarantaine de personnes voyageront des îles mythiques de la Polynésie française jusqu'à nous pour vanter leur accessibilité et les beautés de leur culture. La zone expert déploie ses ailes. Maintenant bien établie comme attraction importante du salon, la zone expert, présentée par Aéroports de Montréal, traitera d'une foule de sujets qui passionnent les voyageurs. Ainsi, ils pourront entre autres discuter avec Nathalie Jam et Natacha Charland des trucs et astuces pour voyager lorsqu'on est une femme seule en Amérique latine, connaître des destinations à privilégier pour les safaris, tout savoir sur la plongée sous-marine et l'observation de la faune avec Ariane Harpindelon, d'Esprit d'aventure et des guides d'Ulysse. Recevoir des conseils photos et vidéos de Harmonie Le Reste et Florent Joyeux, photographe et vidéaste professionnel pour Barons-nous, ou simplement échanger à bâton rompu sur les coups de cœur de la globe-trotteuse Lydiane Saint-Onge du blog Lydiane Autour du Monde, qui a tout quitté en 2013 pour se lancer à l'exploration de la planète et aller au bout de ses rêves. Bravo. Autre nouveauté, et parce que le voyage c'est aussi partir à l'aventure en road trip, Jeep offrira des essais routiers au salon. La communauté des fans et amateurs de Jeep se compose d'amoureux du voyage de type overland, soit voyager de façon entièrement autonome. Toujours au chapitre des nouveautés, les visiteurs auront la chance d'admirer une exposition des plus belles photos de voyage en partenariat avec l'OZO. 18 photographies pourront y être appréciées avec les visiteurs et les visiteurs pourront voter pour celle de leur choix. Vous souhaitez soumettre un de vos souvenirs mémorables, c'est simple. Ben non, il est trop tard, c'était avant le 30 septembre, fallait... à qui la chance ? Ben voilà, on verra ça. Si vous êtes plutôt du genre à apprécier l'aventure, imaginez préparer votre valise, vous rendre à l'aéroport, rencontrer le groupe avec qui vous et votre accompagnateur voyagerez, tout cela sans connaître votre destination. C'est ce que propose le concours « Gagner un voyage mystère » en collaboration avec Voyage Traditour. Un magnifique voyage pour deux personnes à chaque journée s'avère une découverte. Le Salon international Tourisme Voyage rassemble sous un même toit les offices de tourisme de nombreux pays, tour opérateurs et agents de voyage. À tout cela s'ajoutent une quinzaine de salles et de centaines de professionnels reconnus proposeront près de 300 conférences gratuites en 3 jours et des spectacles en continu. Enfin, pour voyager avec les papis, la cuisine du monde, présentée en collaboration avec l'École des métiers de la restauration, sera la destination privilégiée. Ne manquez pas le départ, 3 jours pour découvrir le monde.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin.
Voyage, voyage, revisité par Yann Perrot et La Bronze.
Intéressant. Alors.
Eh bien, allons-y, Jean-Charles, nous
c'est
vous écoutons.
Moi, oui. Encore à moi. Non, d'accord. Alors, du nouveau sous le soleil. Du nouveau, c'est un petit tour d'horizon des nouveautés du côté des forfaits tout inclus, pour ceux que ça intéresse, 2018-2019. La Colombie à la côte. Avec le Costa Rica, la Colombie est l'une des destinations soleil qui connaissent la plus forte croissance de la demande dans les carnets de commandes d'Air Transat. Le voyagiste a donc décidé d'ajouter un vol par semaine pour ces deux pays. Une nouvelle croisière de 7 jours en formule tout inclus au départ de Cartagène, dont la vieille ville est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, sera aussi ajoutée au programme dès l'automne. Notons qu'Air Transat a décidé d'offrir, pour la première fois cette année, certains rabais aux parents qui voyagent seuls dans des formules tout inclus où ils doivent très souvent débourser un prix plus élevé que s'ils voyageaient en couple. Plus du quart des familles sont monoparentales au Québec. Porto Rico devait être la nouvelle destination soleil propulsée l'an dernier par Air Transat avant que l'ouragan Maria ne s'en mêle, ravage les Caraïbes et oblige la plupart des transporteurs aériens à annuler leur vol pour San Juan pour toute la saison. La destination est, semble-t-il, prête à recevoir de nouveau les touristes et Air Transat y reprendra les vols hebdomadaires dès le 23 décembre, s'il n'y a pas d'autres tempêtes d'ici là. Une dizaine d'hôtels sont proposés en formule tout inclus, dévastés par Irma l'an dernier. Saint-Martin espère aussi voir les touristes revenir après une saison 2017-2018 à oublier. Air Transat y reprendra les vols dès le 22 décembre, donc, tandis que Sunwing recommencera les liaisons vers la portion néerlandaise de l'île le 28 février seulement. Des régions vers le sud. Alors Sunwing étendra encore cet hiver ses vols vers le sud en partance d'aéroports régionaux du Québec. Deux vols directs depuis Val-d'Or seront ajoutés vers Cancun et Cayo Santa Maria, tandis que les liaisons Montjoly-Cancun et Montjoly-Punta Cana ont aussi assez de succès lors de leur lancement l'hiver dernier pour être remises à l'horaire cet hiver et même prolongées de 4 semaines. Des formules tout incluses seront proposées pour chacune de ces liaisons. Sunwing annonce d'ailleurs l'ouverture de 3 hôtels Planet Hollywood dans les Caraïbes en 2018-2019 réservés à ses clients. Et enfin, le Club Med bonifie son offre pour les familles au Mexique cet automne en doublant la superficie de ses installations Agua Marina à Cancun. L'agrandissement a permis l'ajout d'une piscine, de jeux d'eau et d'aires de repos réservées aux familles, de même que l'ajout de 60 chambres familiales pour un total de 120. Rappelons aussi que le Club Med Turquoise, pour adultes seulement, a également été rénové récemment, ce qui a permis d'en relever la cote de 3 à 4 étoiles. Les chambres, le bar et les restaurants ont notamment été remis au goût du jour. Alors ça, tout ça, c'est pour ceux que ça intéresse, des forfaits tout inclus, avec des belles destinations. Et voilà.
Restons en vacances, restons au soleil, au bord de l'eau et parlons de la Barbade.
On va laisser Louis continuer sa sieste.
je vais me réveiller vers la fin de l'émission.
Je vais l'aider. Alors ferme les yeux, Louis, et pense à la nouvelle ambassadrice de la Barbade aux États-Unis. Il s'agit de la chanteuse Rihanna. Elle a été officiellement nommée ambassadrice de la Barbade, son pays d'origine, par le gouvernement de ce petit État insulaire, responsable de favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements sur l'île. Le gouvernement a... parenthèse, ce n'est pas une blague, hein, je suis très sérieux, donc écoutez. Hein, Alors, le gouvernement a annoncé dans un communiqué que Robin Rihanna Fenty, de son nom complet, était nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, sans être affectée cependant dans un autre pays. Rihanna a un amour profond pour ce pays qui se reflète dans sa philanthropie, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation, a commenté la première ministre Mia Amor-Motley. Elle montre aussi son patriotisme dans la manière dont elle redonne à son pays et continue à chérir l'île qui reste sa maison, a-t-elle ajouté. « Je suis très fière de prendre ce titre dans mon pays d'origine », a réagi l'ambassadrice Fenty, citée dans le communiqué. Aujourd'hui, âgée de 30 ans, Rihanna a vécu à la Barbade jusqu'à l'âge de 16 ans avant de démarrer sa carrière internationale. Elle a depuis emmené 14 titres au sommet des ventes aux États-Unis, Seuls Mariah Carey, les Beatles et Elvis Presley ont fait mieux. Tous les Barbadiens vont devoir jouer leur rôle dans le mouvement en cours. Je suis prête et enthousiaste à l'idée d'assumer cette responsabilité, a-t-elle ajouté. Je suis impatiente de travailler avec la première ministre Motley et son équipe pour réimaginer la Barbade, a-t-elle dit.
Eh bien, une ambassadrice originale, c'est certain. Merci Yves Olivier.
Intéressant.
Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh,
à force de
remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Oh,
à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds,
hey,
j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
San Severino, mal aux mains.
Et partons en Europe à présent, nous.
Il faut en revenir déjà.
Il faut en revenir, il faut reprendre ses esprits et il faut avoir un article. Voilà, j'ai tout ça, c'est bon. Nous sommes ici à Montréal à la période où bientôt on va enlever les stations de Bixi, je crois. Je ne sais plus quelle est la date exacte, mais ça s'en vient. Et nous n'avons pas, et je ne sais pas si nous aurons un jour, des trottinettes dans la ville. Un service urbain de trottinettes. Pas sûr, honnêtement. C'est assez vallonné. À voir, en tout cas à voir. Eh bien, allons en Espagne. Elles ont débarqué cet été, révolutionnant la mobilité urbaine, mais exaspérant piétons et automobilistes. Prise de court par l'arrivée des trottinettes électriques en libre service, les grandes villes espagnoles contre-attaquent. Dans les rues de Madrid, les quelques centaines de trottinettes de la start-up californienne Lime, dont Uber et Alphabet, la maison mère de Google, sont actionnaires, provoquent tout sauf l'indifférence. Les usagers qui les débloquent grâce à une application sur leur téléphone intelligent ne respectent rien, rien. Il faut des règles, c'est une folie.
En Espagne.
Oui, mais là c'est trop. Là, ils ont poussé le bouchon trop loin. Ils se mettent sur les voies de bus ou de taxi, ils traversent devant les voitures, tempête Fernando Sobrino, chauffeur de taxi de 59 ans. Et ils vont sur les trottoirs sans aucun contrôle, abonde un piéton. Un commercial de 55 ans qui dénonce le danger de se faire rentrer dedans ou de prendre un coup, comme cela a failli m'arriver l'autre jour. Le mois dernier, une vidéo devenue virale sur Internet montrait deux personnes, dont un enfant, circulant à toute vitesse sur une trottinette sur une autoroute près de Valence. Déjà présentes à Paris, Vienne ou Zurich, les trottinettes de Lime ont changé le paysage de la mobilité à Madrid, parallèlement aux vélos électriques de la municipalité et aux scooters électriques en libre-service. Et elles ravissent leurs usagers dans cette ville très vallonnée. Ah bon, bah je retire ce que j'ai dit en introduction. Peut-être en aura-t-on à Montréal si elles ont des moteurs suffisamment puissants.
Une fois qu'on est monté sur le plateau, ça va. Hein.
Oui, ensuite, il suffit de descendre. On va plus vite, on visite plus de zones, c'est reposant et sympathique, facile à utiliser, s'enthousiasme Monica Rodriguez, 58 ans, tout en reconnaissant elle-même que c'est dangereux et gênant pour les personnes qui marchent. L'irruption de ce nouveau mode de transport a en tout cas pris de court les grandes villes espagnoles. À Madrid, où c'était le flou juridique, la municipalité de gauche a finalement adopté des nouvelles règles. Si la circulation des trottinettes est interdite sur les trottoirs ou dans les rues piétonnes, elle a été autorisée, grâce à des amendements de dernière minute, dans toutes les rues limitées à 30 km/h, qui vont désormais représenter 80% des rues de la ville. Valence est aussi en passe d'adopter une nouvelle réglementation encadrant leur circulation. Barcelone, elle, encadre déjà l'utilisation des trottinettes appartenant à des particuliers. La circulation est interdite sur les trottoirs et seules les trottinettes les plus puissantes ont le droit de circuler sur la chaussée. Dans la métropole catalane, débordée par le tourisme de masse, le modèle de la trottinette en libre-service est en revanche totalement interdit. Toute personne payant pour utiliser une trottinette électrique devant être accompagné d'un guide, comme le sont les utilisateurs de Gyropod. Résultat, les trottinettes déposées par la société allemande Wind fin août ont été retirées au bout de quelques heures seulement par la police barcelonaise. Près de Barcelone, la municipalité de l'Hospitalet de Llobregat a interdit à Lime de s'implanter, même scénario à Valence, ville connue pour son réseau étendu de pistes cyclables, où Lime avait déployé ses trottinettes fin août sans autorisation préalable de la municipalité, qui exige une licence pour exercer une activité économique sur la voie publique. Les trottinettes ont donc été retirées et une sanction financière a été infligée à la société américaine qui tente désormais de dialoguer avec la mairie et a même proposé de payer une taxe pour avoir le droit d'opérer. Alvaro Salvat, représentant de Lime en Espagne, regrette l'absence de réglementation spécifique pour les trottinettes électriques à Madrid et dans une grande partie des villes espagnoles. Et en tout cas, je peux vous dire qu'il y en a plein à Paris et comme il n'y a pas de borne, elle se verrouille toute seule, ben, il y en a un peu partout sur les trottoirs en libre service. Et c'est amusant, il y a un côté un peu anarchique, mais c'est amusant.
Bon, à suivre.
Cinq étapes clés pour se lancer en affaires. Qui autour de cette table est à sa propre affaire, sa propre business? Personne?
Non, okay. N'a plus.
Okay. C'est fini. Bon, ben, et moi un peu jeune.
Parfait. Bon, ben, écoutez bien. Écoute le jeune. Alors, qui n'a pas un jour rêvé de fonder son entreprise et de devenir son propre patron?
J'en rêve encore.
Bon, ben, prends des notes. Ce projet de grande envergure mérite d'être bien réfléchi et bien planifié pour que l'idée se transforme en une affaire rentable. Voici les étapes importantes à suivre pour filer tout droit vers le succès, hein, Jean-Charles. Étape numéro 1. Élaborer un plan d'affaires. Fonder sa propre entreprise ne doit pas se faire sur un coup de tête. Un plan d'affaires solide sera gage de votre succès à court et à moyen terme. Et sa préparation vous incitera à réfléchir à vos objectifs et à planifier les prochaines étapes pour y arriver. Si l'exercice vous intimide, des spécialistes de votre centre local de développement, CLD, peuvent vous aider gratuitement. Ce genre d'organisme à but non lucratif offre des services d'accompagnement aux entrepreneurs en devenir. Étape numéro 2, planifier le financement. Pour mettre votre plan à exécution, vous aurez inévitablement besoin de capital. C'est à cette étape que la banque entre en scène. Assurez-vous d'être bien préparé avec votre plan d'affaires en main lorsque vous irez y faire votre demande de prêt. Informez-vous au préalable des attentes de la banque et des documents à fournir lors de votre premier rendez-vous. Numéro 3, entourez-vous des bonnes personnes. Même si vous excellez dans votre domaine, vous ne pouvez pas avoir tous les talents en même temps. Un bon entrepreneur est capable d'aller chercher de l'aide et de s'entourer des meilleures personnes. À ce titre, le comptable est un précieux allié dans le démarrage d'une entreprise. Il pourra vous épauler dans la tenue de vos livres et dans la stratégie fiscale. Et il vous donnera de bons conseils pour être organisé et prévoyant quant à vos revenus et dépenses. L'avant-dernière, c'est trouver un espace de travail. Et la dernière, faire connaître votre entreprise.
Eh bien, voilà. Merveilleux, nous allons appliquer tout ça alors. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, Jean-Charles et moi aurons monté une affaire.
Qui sait?
Et moi?
Non. Bon, d'accord. À discuter.
Pour les prêts, peut-être.
Une chaîne de radio, ça vous tente, non?
À discuter hors antenne, alors. Merci Jean-Charles, merci Olivier pour cette émission. Merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde
et les chefs d'orchestre.
Comme toujours. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle émission. D'ici là, eh bien, bonne semaine à tous.
Bonne semaine.